rồi là ai đó.
Auditrices et auditeurs de la radio Galère, bienvenue à votre émission hebdomadaire Afrique Hebdo Actualité. En ce jour vendredi, Radio Galère 88.4 MHz, DAB+, www.radiogalere.org. Votre émission hebdomadaire Afrique Hebdo Actualité. Nous commencerons par les titres. Le Mali. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga abandonné en plein vol par la junte militaire. Catastrophe climatique et les conflits en Afrique. Tchad, après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Tchad auront ses accords de défense militaire avec la France. Sénégal, Bassirou Diomaye Faye donne une interview pour la première fois à une presse française. Côte d'Ivoire, la multinationale canadienne Endeavour Mining annonce la découverte d'un gisement aurifère dans l'est du pays. Auditrices et auditeurs de la radio Galère, voilà les titres de votre émission hebdomadaire. Et si possible, nous vous ferons écouter, je vous ferai écouter un magazine sur l'Afrique, sur la Guinée. Mali. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga vient d'être abandonné en plein vol par la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali le 18 août 2020. Et ce terme avait été employé par le premier ministre Choguel Kokala Maïga aux Nations Unies à l'endroit de la France, que la France avait lâché le Mali en plein vol. La junte militaire malienne, illégitime et illégale, a parachevé la mission, la militarisation de l'administration et voire des institutions en République du Mali, en nommant le général de division de gendarmerie Ablaye Maïga, premier ministre, qui remplace le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a été démis de ses fonctions par le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, pour vous rappeler que les 5 colonels plus le 6e ont procédé à une autopromotion en s'accordant le grade de général. Choguel a été renvoyé par la junte suite à un meeting qu'il a organisé avec ses partisans. Au cours de ce meeting, Choguel Kokala Maïga, le premier ministre d'alors, a appelé à la clarification. Il a également affirmé qu'il n'était pas associé aux prises de décisions importantes engageant la vie de la nation. Enfin, Choguel Kokala Maïga, l'ex-premier ministre tubain clivant du Mali, a invité les militaires à mettre fin à la transition et d'organiser des élections et d'organiser le plus rapidement si possible des élections libres, démocratiques et transparentes en République du Mali. Cette forte sortie de Choguel Kokala Maïga contre les militaires, contre la junte militaire au Mali, lui a valu d'être démis de ses fonctions. Selon certaines sources, il serait actuellement en résidence surveillée, interdit de quitter le territoire national. En Afrique, de façon générale, il vient d'y avoir des statistiques. Une étude qui a démontré que les catastrophes climatiques et les conflits ont fait que le nombre de déplacés a fortement augmenté en Afrique, le nombre de déplacés et le nombre de réfugiés. Ainsi, selon cette étude, le nombre de déplacés en Afrique a triplé en 15 ans. Ce déplacement, ce taux de réfugiés et de déplacements est essentiellement dû, selon cette étude, aux conflits, l'insécurité et les catastrophes naturelles qui se cumulent et qui sont à l'origine de ces nombreuses et qui sont à l'origine de ce déplacement de nombreuses personnes à plusieurs reprises ou pendant des périodes prolongées. En effet, les conflits, les violences et les catastrophes naturelles en Afrique ont considérablement fait grimper le nombre de personnes forcées de quitter leur foyer, leur territoire. Ces facteurs ont porté à 35 millions le nombre de déplacés dans leur propre pays à la fin de l'année dernière, selon un observateur international qui s'occupe des questions migratoires. C'est pour vous dire la gravité de la situation en Afrique qui est fortement confrontée aux déplacés, qui est fortement confrontée aux conflits, aux guerres, aux changements climatiques, aux discriminations du genre, aux discriminations de tout ordre, au mariage forcé, à l'excision. L'Afrique reste ce continent qui va mal. Selon toujours ces mêmes sources, les déplacés internes africains représentaient à eux seuls près de la moitié de tous ceux qui, dans le monde, ont été forcés de fuir leur pays. Il est aussi à savoir que le Soudan, qui est ce pays d'Afrique orientale, qui, depuis 2023, est en proie à une guerre fratricide entre deux généraux putschistes, le général Bourhan et le général Métis, des forces des FSR, Force Spéciale Rapide. Pour le contrôle du pouvoir, éventuellement, essentiellement de toutes les richesses du pays, ces deux généraux se livrent une guerre fratricide, inimaginable, et sur leur sol, il y a Wagner qui pille, qui viole, qui assassine, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger, et Wagner qui tend ses tentacules, comme en Centrafrique. Et cette guerre fratricide au Soudan a déjà conduit à 11 millions de déplacés. Toujours dans le cadre de l'actualité africaine, le Tchad, après que le Mali et le Burkina Faso aient décidé de rompre leur accord de défense militaire et de sécurité avec la France, le Tchad vient d'emboîter le pas. Hier, le président Mamad Diby, avec les plus hautes autorités du pays, ont déclaré que le Tchad décidait de mettre fin à l'accord de défense qu'il a signé avec la France en 1966. Cette rupture intervient quelques heures après une visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot auprès de son homologue tchadien Abdramane coule à la manne. Ainsi, le Tchad emboîte le pas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, toujours dirigé par des militaires. Nous observons une pause musicale. Auditrice et auditeur de la radio Galère 88.4 MHz.
On n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon manioc n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. Mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon niam n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Le sang qui coule en toi, c'est le même sang qui coule en moi. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas rendu la vie. Quand tu allais chez moi, je t'ai pas demandé visa. Je viens chez toi, pour avoir travail, c'est difficile. Pour avoir papier, c'est dur. Niaho Nazibo. On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré. Mon pétrole n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré. Mon piment n'est pas immigré. Why not?
On m'appelle immigré.
Si tu n'as pas pitié, j'ai dit faut avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, faut avoir pitié. Africain, vous en faites quoi, oh? Africain, vous en faites quoi, oh? Yeah, vous en faites quoi, oh? Africain, vous en faites quoi, oh?
Et auditeurs de la radio Galère. Après avoir écouté ce bon morceau de Je suis migrant qui appelle à la solidarité internationale, à l'endroit des peuples d'Afrique, opprimés, esclavagisés, colonisés, victimes de la dérégulation climatique, victimes de la destruction des termes d'échange économique. C'est ce cri qu'il lance. Au Sénégal maintenant, le prisonnier devenu président, les deux prisonniers sortis de prison pour gérer leur pays, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, comme Nelson Mandela. Bassirou Diomaye Faye, dans une interview accordée au journal français Le Monde, le président sénégalais depuis avril, défenseur d'une politique souverainiste, évoque le massacre de Tcharogne, survenu le 1er décembre 1984. Massacre horrible dont la communauté, le monde entier, va commémorer l'anniversaire, les 80 ans du 1er décembre à venir. Bassirou Diomaye Faye s'est longuement exprimé sur le massacre de Tcharogne, intervenu le 1er décembre 1944, et qu'il a qualifié de longtemps passé sous silence. Et il a également parlé des relations qu'il tend tisser avec la France dans les jours à venir, la puissance colonisatrice. Le président Bassirou Diomaye Faye, depuis avril, s'abrite à commémorer le dimanche 1er décembre les 80 ans du massacre de Tcharogne, survenu le 1er décembre 1984. Des centaines de tirailleurs africains avaient été tués par l'armée française dans ce camp en périphérie de Dakar pour avoir réclamé leurs soldes. Bassirou Diomaye Faye, toujours dans l'interview qu'il a accordée au Monde, a annoncé avoir reçu une lettre du président Emmanuel Macron dans laquelle la France reconnaît le massacre de Tcharogne survenu le 1er décembre 1944, le massacre des soldats africains, maliens, sénégalais, voltaïques, actuel Burkina Faso, guinéens, etc. Toujours selon Bassirou Diomaye Faye, cette reconnaissance doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement. Dans la lettre, le président français Emmanuel Macron estime que la France doit reconnaître ce jour-là la confrontation des militaires et des tirailleurs qui exigeaient qu'ils soient versés l'entièreté de leurs soldes légitimes a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Le président français Emmanuel Macron salue également la mémoire de tous les tirailleurs du Sénégal et d'ailleurs, vaillants combattants ayant pris une part prépondérante aux côtés des troupes de la France libre et de nos alliés à la libération de la France. Si le président Emmanuel Macron a décliné l'invitation du Sénégal, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, représentera la France à une cérémonie de commémoration des 80 ans de ce massacre dimanche à Tcharogne. Il est à rappeler que Jacques Chirac fut le premier président de la République française qui a évoqué le massacre de Tcharogne en 2004. Pour rappel, à la veille de cette commémoration, 5 députés français ont demandé ce mardi l'ouverture, la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur cet épisode sanglant de l'histoire coloniale française. Le texte est surtout défendu par les diverses formations de gauche. Auditrices et auditeurs de la Radio Galère, nous allons observer une pause musicale avec le militant, le combattant Tchiken Diafakouli, combattant pour la liberté, pour la démocratie
pour les peuples.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières. Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Appelez liberté, on veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici car nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Oh. Y'a plus une goutte d'eau. Notre sort, ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin de l'école. Un beau jour, il décide de prendre son envol.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Sable doré, mille animaux en cage et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Laissez-nous passer.
Auditrices et auditeurs de la radio Galère, 88.4 MHz, DAB+, www.radiogalère.org 04 91 08 28 10. La Côte d'Ivoire, le pays de Félix Ophet Boigny, indépendantiste, un des fondateurs du RDA, le Rassemblement démocratique africain, en octobre 1946, qui a conduit à un processus de décolonisation de l'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, qui a su redonner à la Côte d'Ivoire toute sa splendeur et toute sa beauté. La multinationale canadienne Endeavour Mining a annoncé la découverte d'un gisement aurifère important dans l'est du pays. Cette nouvelle a été dévoilée à l'ouverture du premier salon international des ressources extractives en Côte d'Ivoire. Endeavour, cette compagnie canadienne, a annoncé que ce gisement aurifère de classe mondiale sera exploité à Tanda, à l'est du pays. Ce gisement, dont l'exploitation nécessitera un investissement de 530 milliards de francs CFA, je dis bien 530 milliards de francs CFA, environ 800,7 millions d'euros, devrait produire 11 tonnes d'or par an. La société canadienne Aurifère prévoit de produire son premier lingot d'or en 2028. Ce qui veut dire que l'industrie aurifère en Côte d'Ivoire est en pleine expansion depuis quelques années. Et cette dynamique vient d'être renforcée par cette découverte aurifère et qui booste le système et ça fera de la Côte d'Ivoire et ça fera que la Côte d'Ivoire va produire. En 2023, la Côte d'Ivoire a produit à peu près 55 tonnes d'or. Je vous laisse écouter.
Nous sommes préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple.
Ahmed Sékou Touré, quand il déclarait l'indépendance de la Guinée en disant non à De Gaulle en 1958, c'est notre magazine.
Selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre, il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de mille choses, tout également indispensable à sa réalisation. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, tout contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse. Il retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Le général de Gaulle, profondément vexé, avait réagi avec une extrême violence et la sanction de cet affront avait été immédiate. Ahmed Sékou Touré avait, en 1958, osé proclamer immédiatement l'indépendance de son pays, 2 ans avant les autres colonies.
Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage.
Auditrices et auditeurs de la Radio Galère, nous sommes en plein dans notre magazine hebdomadaire. C'est le discours d'Ahmed Sékou Touré prononcé en septembre 1958, où il proclamait l'indépendance de la Guinée. Nous préférons l'indépendance dans la liberté que l'opulence dans la misère. Ce jour était historique pour les peuples africains, pour les peuples en lutte, pour leur indépendance et pour leur liberté. Et ce fut le déclenchement d'un vaste mouvement de décolonisation dans toute l'Afrique francophone. Ahmed Sékou Touré aux Nations Unies, en train de parler en 1959 au nom de tous les peuples d'Afrique dominés, colonisés, opprimés.
Señores representantes, saludo en nombre de la Asamblea General de las Naciones Unidas al excelentísimo señor Sékou Touré, presidente de la República de Guinea, cuya admisión a nuestra organización celebramos con tanta satisfacción en el 13º periodo de sesiones. Con mis sinceros votos por el progreso de vuestra patria, excelentísimo señor, en el panorama provisor del desarrollo del continente africano, os invito a ocupar la tribuna de esta asamblea.
Monsieur le Président, Excellence, c'est avec une réelle émotion que j'ai l'honneur et la joie de m'adresser à votre Haute Assemblée et à travers elle au vénérable peuple des 82 nations que vous représentez. En effet, en mettant fin à la domination étrangère en septembre 1958, le peuple de Guinée avait placé son intime espoir en l'Organisation des Nations Unies. En nous reconnaissant et en nous accueillant comme membres des Nations Unies, vous avez brisé le cercle d'isolement que nos ennemis, les ennemis de l'évolution africaine, tentaient de refermer autour de la jeune République de Guinée, afin de décourager définitivement toute velléité de libération sur le sol africain. Combien il est réconfortant pour les patriotes que nous sommes de constater qu'aux heures les plus décisives du destin de nos peuples, la solidarité et la fraternité internationale ne font jamais défaut. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence, l'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique, de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, l'histoire africaine connaît de nos jours une accélération telle que des événements décisifs et importants ponctuent son processus à un rythme inattendu. Il y a seulement 10 ans, l'Afrique était presque entièrement occupée par l'étranger et sa vie réglée au profit exclusif de celui-ci. Elle était absente de la scène internationale. Le fait le plus significatif, c'est surtout cette levée massive et générale de tous nos peuples, même de ceux qui avaient été jusqu'ici considérés comme les plus arriérés, c'est-à-dire les plus opprimés. Tous les plans en vue de freiner cette évolution, cette volonté farouche de l'Afrique pour la reconquête de sa dignité, sont déjoués les uns après les autres. Et toujours, c'est le même cri déchirant qui retentit à travers tout notre continent. Indépendance. Ainsi, indépendance et unité sont aujourd'hui les deux forces irrésistibles qui secouent ce grand point d'interrogation qu'est l'Afrique, en agitant toutes les forces vives. Aussi, l'orgueil et la sottise. L'Afrique qui émerge à la vie universelle va à la rencontre du reste du monde, non pas comme un élément antagoniste, mais au contraire, avec une entière volonté de coopération, un souci conscient et constant d'être un apport dont le monde ne saurait se priver sans compromettre ses chances et ses ressources. Les nations qui s'étaient attribué le rôle de dirigeant en Afrique ont cru pouvoir agir au nom de nos peuples. On connaît l'échec qu'elles ont récolté. Souvent, les mêmes puissances, la disparition. Aujourd'hui, personne ne conteste l'impossibilité d'imposer une civilisation extérieure à un peuple, surtout par la force et au moment même où de telles préoccupations prétendument humanitaires s'accompagnent d'une exploitation systématique. La volonté, le procès du colonialisme n'est plus à faire. Pour autant que les faits et l'histoire se sont clairement prononcés pour sa disparition totale. La sauvegarde et la survie des peuples indépendants d'Afrique sont liées à l'unité sociale, économique, culturelle et politique de l'Afrique. Et nous percevons bien que les pays indépendants d'Afrique ne sauraient être des îlots de bonheur sur un continent de misère. Ce que nous demandons au nom de la solidarité internationale et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples, c'est une aide fraternelle qui permet à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. Nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité d'inscrire la lutte contre la misère au même registre que la lutte pour le maintien de la paix mondiale. C'est-à-dire que nous considérons la lutte contre l'impérialisme en Afrique comme un facteur déterminant de la lutte mondiale pour la paix. Je crois exprimer ici le choix des peuples sous-développés du monde lorsque j'affirme qu'à travers eux, l'Afrique est partie à la rencontre du monde. Non pas comme une puissance antagoniste, mais comme une force neuve et jusqu'ici inemployée, comme un élément complémentaire sans lequel la famille humaine demeurera incomplète, infirme. Ici, le colonialisme, au contraire, falsifie les véritables sentiments des peuples. Il impose aux uns.
Auditrices et auditeurs de la radio Galère, c'était la déclaration de ce grand militant, de ce indépendantiste Ahmed Sékou Touré à la tribune des Nations Unies en 1959. Il fuit son pays, la Guinée a été le premier pays à accéder à l'indépendance en septembre 1958. Une fois que son pays a accédé à l'indépendance, le Mali de Modibo Keïta aussi décida de réclamer l'indépendance et proclama l'indépendance dans son pays. Et ce fut le déclenchement d'un vaste mouvement d'indépendance dans toute l'Afrique. Écoutons, écoutons Modibo Keïta, le père de l'indépendance du Mali.
Et surtout des autorités des anciennes métropoles. Par ailleurs, nous avons estimé et nous estimons encore que c'est dans l'unité que l'Afrique pourra résister à l'emprise des forces impérialistes et renforcer le camp de la paix. À l'exclusion de la République arabe unie, dont on ne peut pas encore tirer toutes les conclusions sur le plan africain, mais qu'il faut néanmoins saluer comme une volonté de l'Afrique de réaliser son unité et de la Fédération du Mali, dont l'existence fut précaire par la trahison des dirigeants sénégalais, les États indépendants d'Afrique en sont encore à la recherche de formules de coopération sur le plan économique et culturel. Mais nous pensons qu'il faut aller au-delà de ces formules pour que l'Afrique, perdue la domination politique, veuille asseoir une domination économique et culturelle. Certes, il faudra du temps et des efforts. Dans ce domaine, aucun pays ne peut nous donner à nous, Soudanais, des leçons de patience et de courage. Dévoile subjectivement le problème, ce qui empêche d'en saisir toutes les conséquences. Tout d'abord, la Fédération du Mali a permis au Sénégal d'aller à l'indépendance parce que tout le monde sait que les dirigeants sénégalais, empêtrés dans leurs difficultés intérieures, isolés du reste de l'Afrique et pour cause, ne pouvaient pas seuls y conduire leur pays. D'autre part, l'accession à la souveraineté internationale de la Fédération du Mali a conduit certains États africains jusqu'alors hostiles à toute idée d'indépendance à faire usage de leur droit à l'indépendance. Faudrait-il rappeler que la création du Mali et son accession à l'indépendance ont considérablement contribué à la réalisation de l'unité politique au Soudan. Nous avons pu ainsi nous assurer du contrôle politique et administratif de la République soudanaise jusqu'aux confins les plus reculés du Sahara. J'estime également que la sécession du Sénégal a été le ferment de la mobilisation générale des populations soudanaises. Elle permettra à la République soudanaise de réaliser pleinement ses objectifs politiques, économiques, sociaux et culturels sur la base d'un véritable socialisme et uniquement les plus défavorisés. La démonstration sera également faite aux dirigeants sénégalais que la République soudanaise était le principal marché des industries et entreprises sénégalaises. Que notre République n'était pas pauvre et que le Sénégal était riche de notre richesse. Nous entendons désormais garder nos richesses, même humaines, pour accélérer le développement économique de notre République. Les mesures prises, tant à l'intérieur de la République soudanaise qu'à l'extérieur, nous imposeront pour une certaine période des sacrifices qui sont, je le sais, déjà acceptés. Il faut prévoir un isolement possible du Soudan par la force des choses et par l'évolution des événements politiques. Il s'agit donc dès maintenant, face à cette éventualité, d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste planifiée. Nous ne nous arrêterons pas aux slogans, aux formules toutes faites. Nous innoverons, partant des réalités maliennes, greffées sur les expériences réussies ailleurs. Est-il besoin de préciser que la modification de nos structures économiques n'entravera en rien les activités normales du secteur privé vis-à-vis de la République française, nous avons fait preuve de loyauté. Je ne veux pas ici reprendre les arguments développés dans certains journaux qui précisent les origines, les causes réelles de la sécession du Sénégal. Notre proposition sur le problème algérien, notre volonté de réaliser avant tout notre détermination à construire un véritable socialisme, notre volonté de réaliser avant toute autre association une véritable communauté africaine a déterminé certains responsables français à conduire les dirigeants sénégalais à la sécession. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. Premièrement, le refus systématique de la France en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Deuxièmement, l'attentisme du gouvernement français dans l'application des accords franco-maliens, en particulier dans le domaine économique. Troisièmement, l'intervention de la République française auprès des organismes directeurs du marché commun pour que ceux-ci attendent la conclusion des événements avant d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la Fédération du Mali. Quatrièmement, le terme même du message de félicitations du général de Gaulle à M. Senghor, nommé président de la République du Sénégal. Cinquièmement, l'aveu du Premier ministre de la République française de son action en décembre dernier auprès de M. Senghor et Dia pour qu'il transforme la Fédération du Mali en confédération. Sixièmement, la reconnaissance par le gouvernement français de l'indépendance du Sénégal. Cela se conçoit aisément, puisque ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Septièmement, enfin, la demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Nous ne voulons pas user de votre patience en faisant un long développement que j'estime en la circonstance inutile. Il s'agit donc pour nous de prendre des décisions en fonction des seuls intérêts de la République soudanaise. Pour le succès de notre action en faveur de la Fédération, il est indispensable et urgent que la République soudanaise s'affirme sur le plan africain et sur le plan international. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. À proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. nous vous invitons, troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France, comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violé en reconnaissant la République du Sénégal comme État indépendant. Notification de ces décisions sera faite au gouvernement français, à l'Organisation des Nations Unies et à tous les pays indépendants. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la Fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. La Fédération du Mali, en tant qu'entité territoriale, n'existe plus. Son support politique était le parti de la Fédération africaine, dont le président est M. Senghor. La rupture entre la République soudanaise et la République du Sénégal, provoquée par des contradictions politiques fondamentales, met en cause l'existence et le fonctionnement du PFA. D'autre part, celui-ci était l'expression politique d'une idée à laquelle nous demeurons attachés, mais qui fut trahi dans des circonstances peu honorables par son président et l'Union progressiste sénégalaise. Le PFA ne peut donc pas survivre à l'éclatement de la Fédération du Mali. L'Union soudanaise RDA doit se libérer de toute attache avec cette formation politique, garder son autonomie jusqu'à ce que puissent s'affirmer des positions claires et nettes
Modibo
sur
Keïta,
les problèmes politiques.
Premier président du Mali indépendant qui a prononcé ce discours historique et mémorable le 22 septembre 1960 en proclamant l'indépendance du Mali suite à l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal due à des contradictions profondes. Et c'est cet éclatement de cette fédération Mali, qui était le Mali et le Sénégal constituaient le même État, Et en 1959, l'éclatement de cette fédération a conduit à la création du Mali par Modibo Keïta, l'Union soudanaise RDA. Modibo Keïta, communiste, révolutionnaire, indépendantiste, convaincu, était pour une Afrique libre, unie et démocratique. Auditeurs et auditrices de la Radio Galère, ainsi tire vers la fin notre émission hebdomadaire Afrique Hebdo Actualité. Radio Galère 88.4 MHz. Auditrices et auditeurs de la Radio Galère, tout en espérant vous retrouver le vendredi prochain.